VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 17 novembre 2015. Au sommaire ce soir.
Attentat de Paris, la traque de Salah Abdeslam se poursuit en France et en Belgique.
Entre-temps, les promesses de coopération avec la France se multiplient, notamment dans le cadre des opérations militaires contre les djihadistes en Syrie.
La Russie confirme finalement que l'explosion d'une bombe a causé le crash du mois dernier, faisant 224 morts au-dessus du Sinaï.
Rwanda, un pas de plus vers une candidature de Paul Kagame à sa propre succession en 2017. Le Sénat accepte de modifier la Constitution.
Retour ce soir sur la campagne présidentielle au Burkina Faso.
Le gouvernement de la transition joue, en tout cas dans la mesure de sa possibilité, la carte de la neutralité.
On écoutera le géographe burkinabé Drissa Diarra.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Attentat de Paris, la traque du suspect Salah Abdeslam est toujours en cours entre la France et la Belgique. Les enquêteurs retracent petit à petit le parcours de ce djihadiste de 26 ans ces trois derniers jours. Depuis Paris, les informations de notre correspondant Christian Panzo.
Les opérations de police se poursuivent évidemment en Belgique, dans la commune de Molenbeek, mais aussi à Paris, où une troisième voiture louée par Salah Abdeslam a été retrouvée ce matin dans le 18e arrondissement. Ce véhicule a été minutieusement fouillé en pleine rue par les policiers qui l'ont localisé avant d'être emmené dans les locaux de la police scientifique pour subir des analyses plus poussées. Les personnes en charge de l'investigation nous ont également révélé que le groupe de djihadistes était en plante dans deux endroits différents avant de commettre les attaques. Plusieurs chambres d'hôtel à Alfortville, en banlieue sud de Paris, et une maison à Bobigny, en banlieue nord. En Belgique, deux individus qui auraient aidé Salah Abdeslam à quitter la région parisienne dans la nuit de vendredi à samedi ont été inculpés. Cinq arrestations en rapport avec les attentats de vendredi ont eu lieu à la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Enfin, le commanditaire de ces attaques aurait été identifié, Abdelhamid Abaoud, belge de 28 ans, aujourd'hui en Syrie. D'ailleurs, les autorités n'excluent pas la possibilité que Salah Abdeslam soit en route en ce moment même pour la Syrie. Depuis Paris, Christian Panzou pour VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie américaine a annoncé une intensification des attaques américaines contre les djihadistes. Prenant la parole à Paris, John Kerry a confirmé une rencontre Hollande Obama à Washington la semaine prochaine.
But we are absolutely committed.
Le secrétaire d'État américain a réitéré l'engagement absolu des États-Unis à augmenter davantage leurs efforts contre Daesh, notamment à la suite des attaques perpétrées par le groupe au Liban, en Égypte, en Turquie et vendredi dernier à Paris. Le président français doit s'entretenir avec Barack Obama mardi prochain, 24 novembre, selon la Maison-Blanche.
Moscou et la France, toutes deux touchées par les attaques terroristes, annoncent le début d'une coopération militaire inédite dans la foulée des attentats meurtriers du 13 novembre à Paris. Le président Vladimir Poutine a ordonné ce mardi à ses navires de guerre déployés en Méditerranée d'entrer en contact direct avec le porte-avions Charles de Gaulle et de coopérer avec ce qu'il appelle les alliés français. Il faut travailler avec eux comme avec des alliés, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion de l'état-major de l'armée russe consacrée aux opérations militaires en Syrie.
Les États-Unis avaient promis d'accueillir 10 000 réfugiés syriens d'ici octobre 2016 contre 1 800 seulement depuis 2011. Depuis les attentats de Paris, plusieurs États républicains refusent désormais de les accueillir. Idriss Fall.
Pour Greg Abbott, gouverneur du Texas, un réfugié syrien semble avoir participé aux attaques de Paris et il ne veut plus en accueillir dans son État. Phil Bryan, gouverneur du Mississippi, et Robert Bentley de l'Alabama dénoncent une politique à risque. La Louisiane, l'Arkansas, le Tennessee et l'Arizona ont pris des mesures similaires. Le Nebraska ordonne aux agences de placement des réfugiés de décliner les demandes. L'Illinois, l'Indiana et le Michigan ont suspendu l'accueil de réfugiés syriens en attendant des mesures de sécurité supplémentaires. Comme les États n'ont pas les moyens de s'opposer à des financements fédéraux, le gouverneur de Floride, Rick Scott, réclame au Congrès, dominé par les républicains, de bloquer tout financement fédéral. Le républicain Paul Ryan, président de la Chambre, appelle à une pause dans l'accueil des réfugiés. Le président Barack Obama, depuis la Turquie, invite tout le monde à ne pas faire l'amalgame entre la question des réfugiés et celle du terrorisme.
Le Canada s'implique davantage en Irak, s'adressant à la presse dans l'avion qu'il conduisait au sommet de l'APEC à Manille. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé le déploiement d'autres contingents de militaires canadiens sur le sol irakien pour former l'armée et la police locale. Il a cependant réaffirmé sa volonté de mettre un terme aux frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie et en Irak.
La Russie a conclu aujourd'hui qu'une bombe a fait exploser l'un de ses avions de ligne au-dessus du Sinaï le mois dernier. Sans accuser directement le groupe État islamique, le président Vladimir Poutine a promis des représailles contre les auteurs de l'attentat. L'Airbus A321 de Metrojet s'est écrasé, souvenez-vous, en plein vol, tuant toutes les 224 personnes à bord.
Réaction au Caire. Ce soir, le gouvernement égyptien a annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans tous les aéroports du pays. Cependant, le ministre de l'Aviation civile, Hossam Kamal, a affirmé que la commission en charge de l'enquête n'était pas parvenue jusqu'à présent à des résultats qui permettent de déterminer les causes du crash. Plusieurs experts, dont des Américains et des Européens, ont pourtant avancé la thèse de l'attentat à la bombe peu après le crash.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Rwanda, le Sénat, à l'instar de la Chambre basse du pays, a adopté une modification de la Constitution qui permettrait au président Paul Kagame de se représenter pour un troisième mandat en 2017. Les précisions d'Idrissa Seydoudia.
Les jeux ne sont pas encore faits. La Chambre des députés doit encore réexaminer quelques articles mineurs amendés par les sénateurs avant que le texte de la nouvelle Constitution ne soit soumis à référendum. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que sa rébellion du FPR a chassé du pouvoir en 1994 le régime extrémiste Hutu et mis fin au génocide de 1994. Pour le pouvoir, cette réforme constitutionnelle vient d'une initiative populaire. Et il n'en veut pour preuve que les quelques 3,7 millions de Rwandais qui ont signé des pétitions pour réclamer le maintien de M. Kagame au pouvoir. M. Kagame n'a pas affiché clairement ses intentions, mais a déjà affirmé à Idriss Fall de la Voix de l'Amérique pendant un de ses séjours à Kigali qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Dans la sous-région, les volontés affichées de certains dirigeants de se maintenir au pouvoir ont suscité des mouvements de contestation, notamment au Burundi voisin.
République démocratique du Congo. Les nouveaux chefs de la commission électorale ont été investis par le président Joseph Kabila. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Mwenze sont investis respectivement comme président, vice-président et questeur de la commission électorale nationale indépendante, la CENI, indiquent les autorités à un peu plus d'un an de la présidentielle.
Le dernier cas connu d'Ebola en Guinée, une petite fille de 3 semaines dont la mère est décédée, a été officiellement déclarée guérie lundi. On fait le point avec Jacques Aristide.
C'est du moins ce que rapporte l'AFP, citant l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. Le bébé, dont la mère âgée de 25 ans, a succombé au virus après l'avoir mis au monde le 27 octobre, était soigné au centre de traitement d'Ebola de MSF à Conakry. Prénommée Noubia, comme l'infirmière qui a aidé sa mère à accoucher, la petite fille ne présentait plus aucun signe négatif. Mais prudence tout de même, Laurence Assaï de MSF Guinée a indiqué que comme il s'agit du premier bébé contaminé à avoir guéri, elle continuerait à recevoir un soutien médical avant de retourner chez elle. La fin de l'épidémie pourra être déclarée si aucun nouveau cas n'est signalé dans 42 jours, c'est-à-dire vers la fin décembre.
Pour parler de paix sur le Soudan, des délégués du gouvernement de Khartoum sont arrivés à Addis Abeba, en Éthiopie, pour des discussions avec des groupes rebelles. D'après l'Union africaine, en charge de la médiation, des insurgés de la région du Darfour et du SPLMN, actifs dans le Kordofan méridional et le Nil bleu, doivent participer aux négociations prévues en fin de semaine.
L'Allemand Martin Kobler a pris ses fonctions comme nouvel émissaire de l'ONU dans la crise libyenne. Il se dit déterminé à convaincre les deux parties qui se disputent le pouvoir de former un gouvernement d'union nationale.
Tunisie, 17 personnes ont été interpellées depuis le début du mois lors d'opérations antiterroristes. Le gouvernement, cité par l'AFP, affirme ainsi avoir pu déjouer des attaques contre des bâtiments sécuritaires ou des hôtels.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Linden.
Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40% durant le premier semestre, a annoncé Pékin mardi. Le ralentissement économique du géant asiatique ayant entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. La croissance chinoise a ralenti à 6,9% au troisième trimestre 2015, sa pire performance trimestrielle depuis 2009, faisant chuter le prix des matières premières sur le marché mondial. Les ressources naturelles du continent africain ont permis d'alimenter la formidable croissance de la Chine, devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique en 2009. Le Sénégal lance un appel d'offres pour la 4G. Selon le magazine Jeune Afrique, cet appel à candidature intervient près de 2 ans après le lancement de la phase de test de cette technologie. Ne seront autorisées à se porter candidates que les sociétés de droit sénégalais, déjà détentrices d'une licence d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture des services de télécommunications au public. 3 opérateurs de téléphonie mobile sont actifs au Sénégal. La Sonatel, leader avec 55,86% du marché, Tigo, 22,84%, et Espresso, qui détient 23,30% de part de marché. Fin septembre, le Sénégal comptait 6,9 millions d'abonnés à l'Internet mobile. Cameroun, la Sosucam, la société sucrière du Cameroun, espère une production de 124 000 tonnes de sucre au cours de la campagne 2015-2016. Aujourd'hui, la Sosucam affiche un chiffre d'affaires qui varie entre 50 et 60 milliards de francs CFA hors taxes pour une commercialisation pour l'heure de 138 500 tonnes de sucre.
Voilà pour la Minute Éco. On remercie John Linden.
Il me semble particulièrement content ce soir.
Ben les éléphants, les étalons sont en train de mener.
Et notre étalon ici, c'est Bagassi Koura. Sport, football, éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA Zone Afrique.
Oui, un peu plus tard, on aura le résultat du match qui oppose les Lions de la Teranga à l'équipe de Madagascar. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. L'aller, les deux équipes s'étaient départagées par un score de 2-2. Ce soir, donc, au stade du 4 août, les étalons en ce moment même mènent 1-0, un but de Jonathan Pitroapa. Les étalons qui jouent contre les écureuils du Bénin qui les avaient battus 2-1. Si le score en restait là, Chérubin, j'insiste. Les étalons passeraient au troisième et dernier tour.
À cause du but marqué à l'extérieur.
À l'extérieur, à Kigali, le Rwanda a été humilié 3-1 par la Libye. 0-0 entre le Cameroun et le Niger. Le Cameroun s'est donc qualifié. Le Ghana s'est qualifié en battant les Comores 2-0. Même score pour le Nigeria face au Swaziland. 2-1 pour le Congo-Brazzaville face à l'Éthiopie. L'Égypte a dominé donc le Tchad 4-0. C'était à la mi-temps. L'Afrique du Sud mène 1-0 face à l'Angola, 3-0 pour la Côte d'Ivoire qui joue contre le voisin libérien. La Tunisie mène 1-0 face à la Mauritanie. L'Algérie domine la Tanzanie 1-0. Et le Cap-Vert va affronter aujourd'hui le Kenya. Le Botswana joue contre le Mali.
Et on connaît déjà quelques qualifiés pour le troisième et dernier tour.
Oui, le Marocain, la Zambie, la RDC, l'Ouganda, la Guinée, le Gabon, le Ghana, le Nigeria, le Congo. Et d'ici quelques heures, on saura la liste complète des équipes qualifiées. Il faut dire que les pays qualifiés pour le troisième et dernier tour seront versés dans 5 groupes de 4 pays. Match prévu entre le 3 octobre 2016 et le 14 octobre 2017.
Le 14 novembre, je crois.
14 novembre, pardon, 2017. Les 5 vainqueurs de groupe se qualifieront pour la phase finale de Russie 2018.
Alors, parlons maintenant basket, basket professionnel en Amérique du Nord, la NBA.
Et ce résultat hein, qui vous intéresse particulièrement, Chérubin, San Antonio qui s'impose hein, 93-80, Phoenix qui domine les Lakers de Los Angeles 120-101, Chicago qui gagne face à Indiana, son voisin, 96-95, il faut dire que les deux villes sont voisines, et Houston qui se fait battre par Boston 95-111, Memphis qui écrase Oklahoma City 122-114.
Merci Bagasikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie, place au dossier du jour.
Bien sûr, notre premier dossier, c'est les attentats de Paris, l'intensification des bombardements contre les cibles des djihadistes en Syrie, et qui est une réponse envisagée par plus d'un. Et il y a la France, il y a la Russie, il y a les États-Unis, la Grande-Bretagne qui ont annoncé davantage d'implications sur ce théâtre. Est-ce que c'est la réponse appropriée, se demande-t-on, face à la menace terroriste. Pour un éclairage, Eric Manerakiza a joint ici à Washington Émile Baroudi, c'est un confrère spécialiste du Moyen-Orient.
Il y a eu des opérations terroristes dans le monde arabe, je parle de la Tunisie, de la Libye, de l'Irak, en Turquie, au Moyen-Orient. Tout ça est différent de ce qui se passe avec l'État islamique en Syrie et en Irak. Le danger est différent et la façon avec laquelle on doit répondre à ces deux possibilités complètement séparées doit être différente. Je ne vois pas en quoi une attaque des bombardements aériens d'opposition de l'État islamique en Syrie ou bien en Irak pourrait changer grand-chose à ce qui se passe, à ce qui pourrait se passer en Europe. À mon avis, les bombardements qui ont lieu maintenant sont un peu folkloriques. C'est pour mettre les gens à l'aise, pour qu'ils sachent qu'on fait quelque chose, mais je ne vois pas de lien direct entre ces deux choses. Ces positions qui sont en train d'être bombardées en Syrie et en Irak sont des positions militaires. Ils auraient dû être bombardés avant, peut-être qu'ils le seront après. Il y a un ordre de priorité. Il y a beaucoup de forces aériennes qui sont en train de faire beaucoup de choses en Syrie et en Irak. Mais vraiment, je ne vois pas en quoi ça peut altérer les capacités de l'État islamique en Europe.
Barack Obama a encore une fois rejeté toute idée d'envoyer des troupes au sol. Son secrétaire d'État, John Kerry, a dit que la stratégie actuelle ne fonctionne pas. Qu'en pensez-vous?
Le défi de l'État islamique est important et un peu complexe. Complexe en ce sens que les États non islamiques qui pourraient, si vous voulez, se substituer aux États islamiques pour faire quoi que ce soit contre l'État islamique seront toujours reçus avec « Ah, c'est les croisés, ah, c'est les nouvelles croisades ». L'Europe, les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose dans la guerre des idées que présente l'État islamique dans le monde islamique en soi.
Et quelle est la solution efficace pour répondre à ce défi?
La meilleure serait que le monde musulman s'implique plus profondément dans cette guerre des idées. Il faut que les ulémas modérés soient plus présents sur les télés, dans les prêches des vendredis, quand l'État islamique dit qu'une attaque, disons les bombardements aériens contre ses bases sont une croisade. Il faut que le mufti d'Arabie Saoudite sorte dire non, ce n'est pas vrai. Ce qui est mauvais pour le monde islamique, c'est quelque chose comme Daesh. Il faut que ce soit dit et il faut que ce soit dit plus souvent. Il faut que ce soit dit tout le temps. Il ne faut pas désespérer. En Europe, il faudrait aussi travailler sur diminuer la marginalisation de la jeunesse islamique. C'est un peu comme ce qu'il y a eu aux États-Unis avec les Noirs. Il y a eu un moment où les Noirs étaient un peu déçus. Ils ne voulaient pas rentrer dans le système et tout. Mais il a fallu beaucoup d'efforts et 20, 30 ans plus tard, les Noirs refont partie de la société américaine.
Émile Baroudi, journaliste spécialiste du Moyen-Orient.
Suite aux attentats de Paris, les réfugiés ne doivent pas être transformés en bouc émissaire, a déclaré aujourd'hui le Haut Commissariat aux réfugiés. La majorité de ces réfugiés, en provenance de la Syrie ou de l'Irak, fuient justement l'extrémisme et le terrorisme. Ce sont les premières victimes des terroristes qui ont perpétré les attentats de Paris, a dit à VOA Afrique le porte-parole du HCR pour l'Europe, William Splinder, soulignant qu'il est donc temps d'augmenter les voies légales pour recevoir les personnes en détresse.
Il faut se rappeler que l'écrasante majorité des personnes qui arrivent en Europe fuient la persécution ou les conflits et qui n'ont pas d'autres alternatives pour trouver la sécurité. Et ils fuient justement le terrorisme perpétré par ceux qui sont responsables des attentats de Paris. Bon, partout, il y a eu des réactions en Europe, aux États-Unis, etc., de la part de certains politiciens qui préconisent de mettre fin au programme actuellement en œuvre, les responsabilités acquises par les différents gouvernements pour gérer la crise des réfugiés. Ça nous préoccupe parce que justement, ils tentent de diaboliser les réfugiés en faisant des amalgames entre les réfugiés et les terroristes. Et c'est justement ces programmes de réinstallation ou de transfert dans des autres pays qu'il faut faire pour diminuer la possibilité des problèmes de sécurité. Justement, c'est cette alternative légale pour accéder en sécurité qu'il faut faire. Au lieu de la situation qu'on a en l'instant, qui est une situation pratiquement chaotique, où c'est les personnes qui arrivent eux-mêmes par leurs propres moyens. Il faut savoir que les réfugiés vont continuer à arriver et c'est aux États à décider s'ils vont arriver d'une manière organisée, légale ou s'ils vont arriver par leurs propres moyens, qui peut avoir plus de risques. Et de cette manière, ils auront moins de dangers eux-mêmes de souffrir des dangers en route, mais aussi les pays qui vont les recevoir auront aussi beaucoup plus de sécurité parce qu'on aura beaucoup plus de contrôle sur les personnes qui arrivent.
Alors le HCR insiste sur le fait de préserver l'intégrité du système d'asile et vous dites que sécurité et asile en Europe ne sont pas incompatibles. En fait, comme vous venez de le dire, il s'agit tout simplement d'un meilleur contrôle.
Tout à fait. Le contrôle est essentiel pour la sécurité des pays qui vont recevoir les réfugiés, mais aussi pour donner de la protection aux personnes vulnérables. Et justement, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés énonce précisément et exclut explicitement de son champ d'application les personnes ayant commis des crimes graves, y compris le terrorisme.
William Splinder, porte-parole du HCR pour l'Europe, est adjoint à Genève.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur les attentats du 13 novembre à Paris. La nouvelle stratégie d'attaque à l'extérieur du groupe État islamique marque-t-elle un tournant dans la guerre contre le terrorisme? L'OTAN va-t-elle être mobilisée? Des troupes au sol seront-elles cette fois-ci déployées? Quelles en sont les conséquences pour les réfugiés? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Burkina Faso, la campagne pour la présidentielle du 29 novembre entre dans sa deuxième semaine. Il y a 14 candidats en lice pour ce premier scrutin post-Compaoré. Pour le géographe Drissa Diarra, ce scrutin est le plus compétitif.
Évidemment, tout le monde a sa chance parce que chacun des candidats croit effectivement à sa victoire. On constate cela déjà. Et l'autre avantage ici est que le gouvernement de la transition joue, en tout cas dans la mesure de sa possibilité, la carte de la neutralité. Conséquence, dans cette présidentielle, les moyens de l'État ne peuvent être utilisés comme dans les temps passé en tant que tel. Donc cela remet du point de vue de l'utilisation des moyens de l'État, les véhicules, etc., les candidats sur un pied d'égalité. Conséquence, je peux dire que chaque candidat a sa chance du point de vue des moyens de base.
On voit qu'il y a 14 candidats, mais il y a seulement deux femmes. Comment on peut expliquer cela?
C'est la réalité politique qui est comme ça dans notre environnement politique. Les femmes hésitent effectivement à rentrer dans la politique. Même celles qui veulent y rentrer effectivement, elles n'ont pas cette facilité-là, toujours. Parce que le terrain politique est un peu craint. Tout le monde veut que la femme s'engage effectivement sur le terrain politique pour s'affirmer, mais personne ne veut que sa propre femme s'engage. généralement, ce sont les femmes qui arrivent vraiment à s'affirmer, qui ont une forte personnalité, qui arrivent à faire cela. Et il ne faut pas oublier, la politique aussi, c'est le savoir intellectuel. Si on fait un sondage, en fait, à l'école également, on va constater une certaine disparité entre effectifs garçons et puis effectifs femmes. Cela se répercute nécessairement sur le terrain politique. C'est ce qui peut expliquer cette disparité criarde.
Drissa Diarra, géographe burkinabé, au micro de Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Les investissements chinois en Afrique ont chuté de plus de 40% durant le premier semestre. Le ralentissement économique du géant asiatique a entraîné une baisse drastique de sa demande en matières premières. Pour une analyse, Nicolas Pinault a joint Sébastien Le Belzic. Il dirige le site chinafrica.info.
C'est pas une surprise de savoir que depuis le début de l'année, on a senti un ralentissement considérable de deux éléments principaux. D'abord, ces investissements directs en Afrique qui concernent la Chine. Il faut savoir qu'essentiellement, ce sont des investissements dans les infrastructures minières et pétrolières. C'est-à-dire que les grandes entreprises d'État chinoises investissaient énormément. Ça veut dire que lorsqu'ils construisaient un puits de pétrole ou qu'ils exploitaient une mine, il y avait autour toute une série d'investissements comme des routes, parfois des écoles, des barrages pour l'électricité. Et donc, ça générait de gros flux d'investissements dans ces pays africains. Cela a considérablement baissé et c'est lié à l'effondrement de la demande chinoise en matières premières qui a chuté, elle, depuis le début de l'année, de 43%. Ce contre-coup provoque aujourd'hui l'effondrement des investissements chinois.
Mais au-delà de l'économie, est-ce que la Chine a aussi finalement développé son partenariat culturel avec le continent africain ?
Ces investissements économiques ont généré un afflux important de population chinoise. On parle de 2 millions de ressortissants chinois installés sur le continent africain. Également, la Chine est la première destination pour les étudiants africains qui partent étudier à l'étranger. Depuis cette année, il y a des instituts Confucius qui sont construits un peu partout en Chine, dans lesquels on apprend le mandarin, parce que pour faire des affaires avec la Chine, il faut parler chinois, tout simplement. Et donc, effectivement, il y a toute une série d'échanges économiques, culturels, mais aussi politiques qui sont mis en place derrière cette Chine-Afrique, finalement.
Pékin avait toujours tracé la ligne du non-interventionnisme dans les affaires africaines. Est-ce toujours le cas, selon vous ?
Là encore, les lignes sont vraiment en train de bouger, puisque lorsque l'on dépense des centaines de millions de dollars pour construire une raffinerie au Sud-Soudan, par exemple, on doit absolument la protéger des pillages, mais également maintenant des attaques terroristes. Donc la Chine a commencé à évoluer sur ce terrain-là. Maintenant, c'est un grand pourvoyeur de casques bleus sur le continent africain. Elle est présente au Mali, elle est présente au Sud-Soudan, avec des troupes combattantes, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et le deuxième point, c'est les négociations qui sont en cours actuellement pour l'installation d'une base militaire chinoise permanente à Djibouti. Le général chinois était là-bas le week-end dernier pour négocier les derniers détails. Les Chinois disent que c'est d'abord pour participer aux opérations anti-piraterie dans le golfe d'Aden et donc protéger leur cargaison, leur porte-containers. Mais évidemment, lorsqu'on a des troupes dans la région, on ne peut pas s'interdire d'avoir certaines opérations militaires si jamais on venait à attaquer des expatriés chinois sur le continent, par exemple.
Sébastien Le Belzic, joint à Pékin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225 58 92 4-0. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Joe Gill, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsine.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.